Radio Cité Genève.
Genève internationale. Epiphane Monfaux.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans cet autre numéro de ce magazine Genève Internationale. L'ONG suisse Enfants du Monde basée à Genève a récemment organisé un lunch talk autour du thème central de l'implication des communautés dans l'élaboration des projets de coopération internationale. Ce modèle qui fait la force de leurs actions a été présenté par leurs expertes travaillant directement sur le terrain. L'occasion a été d'en apprendre davantage sur leurs projets innovants, notamment dans le domaine de l'éducation et de la santé dans les pays comme le Bangladesh, le Burkina Faso, le Guatemala et le Tchad. Dans cette première partie d'émission, nous serons avec Rufine Laetitia Sama, qui est directrice pédagogique d'Enfants du Monde au Tchad, mais également avec Simone Arcila, chargée de programme pour l'Amérique latine, toujours à l'ONG Enfants du Monde. Nous les écouterons dans ce reportage, l'une après l'autre.
Genève internationale.
Bonjour Rufine Laetitia Sama.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes directrice pédagogique d'Enfants du Monde au Tchad. Vous venez donc de présenter l'intégration de la culture et des langues locales dans l'enseignement primaire dans ce pays. Quels sont les principaux défis auxquels l'éducation, l'instruction, pourrait-on dire, fait face au Tchad en termes d'intégration de la culture et des langues locales?
Alors, je dirais en termes de défis, hein, et ça je venais de l'aborder dans la conférence, dans un pays multilingue où plusieurs langues se côtoient et malheureusement les États ont identifié des langues qui ne sont pas parlées par la majorité des populations, donc pour moi ça devient un défi. C'est comme si on s'adressait à des sourds. Imaginez-vous que on va en Chine par exemple pour faire l'éducation globalement aux enfants chinois et on ne leur parle pas le chinois. On leur parle plutôt une autre langue. Quels sont les résultats qu'on pourrait attendre de ça? C'est effectivement cette situation que nous vivons au niveau du Tchad. Et la question donc de la langue d'enseignement est devenue un grand défi pour nous.
Comment donc Enfants du Monde a-t-elle travaillé, donc l'organisation a-t-elle travaillé avec les communautés locales pour concevoir des programmes scolaires adaptés?
Voilà. Donc l'un des défis, on en a parlé tout de suite, c'est la langue. Et comme les langues se côtoient, elles sont nombreuses, nous avons travaillé avec les communautés pour faire émerger les langues les plus véhiculées ou les plus parlées par l'ensemble des élèves et l'ensemble de la communauté. Et c'est à partir donc de ces langues, bien entendu aux côtés des langues officielles, que l'enseignement-apprentissage se fait dans les salles de classe. Et donc le matériel didactique qui est élaboré et contextualisé se fait dans les deux langues, à la fois la langue officielle mais aussi dans la langue locale pour faciliter l'enseignement-apprentissage.
Et vous avez un exemple à nous partager?
Alors au Tchad, nous avons pu développer 4 langues, donc la langue Sar. C'est le Sar au niveau du sud, il y a le Sarakaba aussi au niveau du sud, qui est utilisé dans près de 700 et quelques écoles. Voilà. Et au niveau du nord, nous avons travaillé beaucoup plus sur l'arabe tchadien. C'est une langue locale là-bas, l'arabe tchadien, qui est parlé aussi par plusieurs enfants dans les classes. Et donc, le matériel est dans ces langues locales aux côtés des langues officielles.
Et quels sont les principaux résultats obtenus en termes d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation?
Alors, je vais parler plutôt de la qualité parce que c'est ça qui est le plus grand défi. Vous voyez, les enfants qui entrent dans ces écoles, environ un mois, deux mois après, ils sont capables d'écrire de courtes phrases, d'écrire leur nom. Ils sont tellement enthousiastes pour aller à l'école parce qu'ils savent que ce qu'ils apprennent à l'école, ça correspond à leur vécu. Donc pour nous, enfants du monde, comment rendre l'école vivante, attrayante? Pour nous, l'école, c'est la vie. Ce n'est pas qu'on finit l'école pour entrer dans la vie, mais l'école devrait être la vie. Il faut que l'enfant apprenne des choses qu'il vive à la maison.
C'est-à-dire?
Alors, les calculs qu'il fait, les comptes et tout ça là,
Exemple de calcul, vous avez parlé de la conversion en kilogrammes, par exemple.
Hein, au Tchad, par exemple, l'unité de mesure, c'est le koro. Malheureusement, le koro n'est pas enseigné à l'école. Et donc, enfant du monde a essayé de ramener ses connaissances endogènes utilisées par les enfants à la maison, qu'il a essayé de ramener à l'école pour que les enfants puissent faire la correspondance au niveau de l'école et ça facilite réellement l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage réel commence au moment où l'enfant peut faire la comparaison. Sans comparaison, il n'apprend rien, il répète bêtement sans comprendre. Dès qu'il commence par faire la comparaison, il comprend mieux et il apprend mieux.
Comment vous avez impliqué les enseignants et enseignantes dans ce processus d'adaptation culturelle des contenus éducatifs?
Alors, est-ce que ce sont les enseignants? En fait, on a plus impliqué les animateurs pédagogiques, donc les formateurs des enseignants. C'est eux qu'on a le plus impliqué dans l'adaptation. Mais tous les tests sont faits avec les enseignants. Avant de le généraliser, on le teste avec les enseignants. On voit comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à cette adaptation et c'est après ça que c'est mis dans le document officiel et c'est diffusé.
Ouais. Comment vous envisagez de pérenniser et étendre cette approche à des défis similaires?
Alors, ce que nous travaillons déjà dans les mécanismes de l'État, c'est déjà un grand atout pour nous. Ouais, il n'y a pas des écoles EDM, des écoles de l'État, non. Même dans les centres de formation des enseignants, nous travaillons dans des mécanismes qui existent déjà. Et le souhait vraiment, c'est que l'État lui-même prenne le relais au retrait donc du programme. Voilà ce que je pourrais dire. Donc tous les acteurs du ministère qui sont dans ces zones sont formés par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment un gage de la pérennisation.
Je vous remercie, Rufine Laetitia Sama. Vous êtes directrice pédagogique d'Enfants du Monde au Tchad et vous réagissiez suite au Lunch Talk où vous venez de présenter l'intégration de la culture et des langues locales dans l'enseignement primaire dans ce pays. Merci à vous.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et à très bientôt.
Genève internationale. Épiphane Monfaux.
Bonjour Simone Arcila.
Bonjour.
Vous êtes chargée de programme pour l'Amérique latine à l'ONG Enfants du Monde et vous venez de présenter à ce Lunch Talk engagement des parents et enseignants et enseignantes contre la violence scolaire. Quels sont les principaux types de violence scolaire auxquelles les élèves sont confrontés au Guatemala?
Au Guatemala, on retrouve différents types de violences au sein des écoles. Donc, c'est un peu comme en Suisse ou comme dans n'importe quel pays. On retrouve beaucoup de problèmes d'harcèlement, de moqueries entre les élèves. Mais parfois, on voit aussi des problèmes de violence physique, psychique. Et dans les cas de plus graves, il y a parfois des enseignants qui maltraitent ou qui abusent des élèves.
Comment votre organisation a-t-elle réussi, donc votre organisation, je parle de l'ONG Enfants du Monde, a-t-elle réussi à mobiliser et impliquer les parents d'élèves dans la lutte contre ce phénomène?
Voilà, en tout cas, on s'est dit que c'était une problématique suffisamment importante pour devoir la traiter à l'école. Notre stratégie, ça a été de vraiment venir en appui aux enseignants, aux parents d'élèves, pour qu'ils puissent aborder cette thématique de la prévention de la violence, de les outiller. Donc, on a développé des matériels, des affiches qui permettent de déclencher ou de thématiser ce problème, par exemple, entre l'enseignant et les élèves. Avec les parents d'élèves, on trouve que c'est aussi très important de travailler ces thématiques parce que beaucoup des problèmes de violence viennent aussi du foyer. Donc, c'est très important de pouvoir parler avec les parents sur ces différents type de violence et qu'ils se rendent compte que parfois des comportements qu'ils pensent ne pas être violents sont des violences commises envers les enfants.
Quel type par exemple de violence?
Alors malheureusement, la violence, elle est encore très normalisée en matière d'éducation. Donc pour corriger les enfants, beaucoup de parents font recours à des châtiments corporels ou à des insultes. On voit ça dans les formations et dans les sensibilisations, que les parents prennent conscience que ces comportements ne sont pas adéquats et qui constituent des violences envers les enfants.
Quels ont été les principaux changements observés dans le comportement autant des élèves et l'ambiance scolaire suite à ces actions?
Il faut dire que ce projet, il a commencé il y a quelques mois, donc pour l'instant, on est en train de former, de sensibiliser notamment les parents d'élèves et les enseignants. Mais on se rend compte déjà dans ces ateliers de formation qu'il y a une prise de conscience que certains comportements qu'on considérait banals constituent des violences. Il y a eu notamment un témoignage d'une mère de famille qui disait, suite à cet atelier, moi je me suis rendu compte que malgré le fait que j'ai pas eu, disons, une éducation au sein de la maison amoureuse, et que j'ai subi beaucoup de violences de la part de mes parents, je ne dois pas répéter ces comportements violents envers mes enfants.
Est-ce qu'il y a eu des difficultés que votre ONG a pu rencontrer pour faire travailler ensemble parents et enseignants, et comment vous les avez surmontées?
Pour l'instant, on n'a vraiment pas trouvé des problématiques. Je pense que l'idée du projet, c'est plutôt de pouvoir rassembler ces acteurs. C'est un peu les étapes suivantes du projet, où on aimerait, autour de projets concrets, des projets d'établissement ou des projets de classe, pouvoir rassembler tous les acteurs de la communauté éducative, donc les parents, les élèves et les enseignants, autour d'activités ludiques pour traiter cette problématique de la prévention de la violence tous ensemble.
Ce projet va durer environ combien de temps?
Ce projet, il a une durée de 2 ans. Donc là, on est à peu près vers la moitié du projet.
Donc vers la moitié du projet, à mi-parcours, quelles sont déjà les premières leçons qu'on peut tirer, les premières expériences que vous pourrez tirer?
Peut-être que c'est pas un sujet facile à traiter. Quand on parle de violence, il faut aussi parfois parler de certaines thématiques, par exemple des choses en lien avec l'éducation sexuelle. Et là, on se rend compte que c'est parfois difficile pour certains acteurs d'accepter qu'on thématise ça. Mais on est convaincu qu'il faut les thématiser. Si elles sont pas thématisées ni à l'école ni au sein de l'école, c'est très problématique pour les enfants.
Est-ce que vous pensez que ce projet qui est en ce moment piloté au Guatemala, ce pays d'Amérique centrale, peut être également pérennisé ou peut être piloté dans d'autres pays, sur d'autres continents?
Je pense que oui, mais pour cela, il faut qu'on implémente déjà ce premier projet. On tire un peu aussi nos leçons, et pour retirer de cette expérience les démarches qui pourraient être bénéfiques aussi dans d'autres contextes, sachant que chaque pays est différent, et donc ces démarches doivent toujours être contextualisées aux besoins spécifiques de chaque pays.
Je vous remercie en tout cas, Simone Arcila. Vous êtes chargée de programme pour l'Amérique latine à l'ONG Enfants du Monde, et vous venez d'exposer engagement des parents et enseignants-enseignantes contre la violence scolaire. Merci à vous de nous avoir partagé ces quelques moments. Merci également à toutes et à tous, et belle suite de journée sur Radio Cité Genève 92.2 FM.
Merci à vous pour votre intérêt.